Le collège de Gouta.
Des interviews, des actus,
de la musique,
des sciences,
des reportages.
Vous écoutez Hors de Choc.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bonne année. Vous êtes actuellement sur Ondes de Choc, une émission animée par les élèves volontaires du Collège du Gouta qui consacre tous les lundis une heure d'atelier radio entre midi et 13h. Nous vous proposons aujourd'hui notre deuxième émission radio de l'année scolaire. Je suis accompagnée de Emma, la seconde animatrice principale.
Bienvenue à tous et à toutes. Je rappelle rapidement que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur le site de radioescapade.org. Mais commençons tout de suite au sommaire. Naruto, une célèbre série animée présentée par Paolo, suivie d'un incroyable sujet scientifique de Guillaume, puis notre chronique collège sur le thème du stage de 3e présentée par Lola, un jour une question, votre chronique actu avec Elliot,
suivra la découverte du club robotique avec Athénaïs, puis les records du monde, bienvenue en Italie avec Paul et Maël.
Sur ce, place à Paolo.
Bonjour chers auditeurs, auditrices, aujourd'hui je vais vous parler de Naruto, ce grand manga connu et adoré par toutes et tous. Introduction. Une seconde partie du récit a aussi vu le jour. On peut retrouver Naruto et ses aventures sur Wakanim, Netflix, Prime Video et encore d'autres plateformes. Naruto est l'un des mangas les plus vendus dans le monde et est aussi l'une des bandes dessinées les plus vendues. Histoire. L'origine de Naruto se déroule dans un monde où, bien que de nombreuses technologies modernes aient vu le jour, les ninjas et samouraïs sont restés de véritables puissances militaires. Chaque pays a un village qui représente la force militaire du pays. Dirigé par une personne incroyablement puissante, village à travers leurs ninjas se livrent des guerres les uns aux autres à petite ou grande échelle, que ce soit pour obtenir des caractéristiques avantageuses propres au village ennemi ou pour soumettre un autre village et gagner en puissance. Dans ce monde ninja, il existe 9 créatures gigantesques. Les neuf créatures gigantesques sont des formes vivantes de chakras, parfois mentionnées comme des monstres de chakras, leur procurant une puissance surpassant la plupart des ninjas, principalement inspirés du folklore japonais. On les distingue bien sûr par leur aspect très différent les uns des autres. Ils ont chacun des affinités élémentaires différentes et des capacités spéciales propres. Les 9 créatures naquirent à la fin de la vie d'une personne puissante le jour où il sépara le chakra d'une créature encore plus puissante en 9 parties qui devinrent les 9 créatures gigantesques du monde ninja. Synopsis. Orphelin cancre et grand farceur, il fait toutes les bêtises possibles pour se faire remarquer son rêve, devenir le meilleur Hokage afin d'être reconnu par les habitants de son village. En effet, la bête scellée en lui a attisé la crainte et le mépris des autres villageois qui, avec le temps, ne font plus de différence entre la bête qui essaye dans Naruto et Naruto. Après avoir raté l'examen 3 fois, il est alors inclus dans une équipe de 3 apprentis ninjas. Peu après, il rencontre leur chef, ninja, qui s'occupe de son équipe. Au début, craint et méprisé par ses pairs, Naruto va peu à peu monter en puissance et gagner le respect et l'affection des villageois, grâce notamment au combat dantesque qu'il remportera face aux ennemis les plus puissants de son village. Personnages. Le début de l'histoire se centre sur 4 personnages principaux, Naruto Uzumaki bien évidemment et son équipe par la suite. De nouveaux personnages font leur apparition, les 3 ninjas légendaires, qui deviendront leurs mentors des 3 élèves dans la nouvelle génération et introduisant leur séparation. Au fur et à mesure du développement de l'intrigue, de nouveaux personnages apparaissent devenant des rivaux, des alliés ou des grands ennemis. Plus tard, les autres personnages entretiennent des relations de plus en plus prononcées avec les autres villages ninjas. Techniques de combat. Ces techniques de combat ne s'acquièrent qu'après un long entraînement qui vise à développer et contrôler ses ressources physiques et spirituelles. Le ninjutsu étant un art fondamental et pratiqué par tous les ninjas, ces techniques étant l'arme principale des ninjas, elles sont donc une place primordiale dans le manga. Je trouve que la série est très bien faite et bien dessinée. L'histoire a des rebondissements sur le folklore japonais. Il y a encore des questions sur la série que nul a la réponse. Naruto Shippuden a une suite qui s'appelle Boruto Naruto Next Generation, qui est la suite de l'histoire. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour la suite de l'aventure.
Je ne connaissais pas, j'irai voir.
En effet, passons à un sujet scientifique avec Guillaume.
J'ai réussi à le semer.
en sautant dans un terrier. Bon, bref, bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, chers auditeurs. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet sur un dinosaure qui va vous étonner, le Spinosaurus. Pour commencer, je me mets du déodorant car le Spinosaurus possède un odorat beaucoup plus développé que celui du chien. Et justement, pour cette chronique, je vais devoir observer un Spinosaurus. Alors j'ai intérêt à ne pas me faire repérer. Ah oui, je parle au présent parce que j'y suis, j'ai voyagé dans le temps, là. Il mesure 15 mètres de haut, 18 mètres de long et pèse 6 tonnes. En fait, c'est le plus grand carnivore terrestre de tous les temps. Vous croyez sans doute que c'était le T-Rex le plus gros ? Eh bien, sachez qu'à côté du Spinosaurus, c'est un petit joueur, votre T-Rex, là. Il y a quand même 8 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur d'écart entre les deux. Et le Spinosaurus est plus gros, même sans la voile qu'il possède sur le dos, lui servant à régler sa température corporelle. Cela dit, le combat entre eux est complètement impossible, car le Spinosaurus vit 35 millions d'années avant le T-Rex. Nous sommes au Crétacé, la troisième et dernière période d'existence des dinosaures. Notre Spinosaurus se rapproche maintenant d'un fleuve, on va tout de suite savoir pourquoi. Ah oui, bien qu'il chasse aussi sur Terre, il fait aussi partie des rares dinosaures à pêcher. Les paléontologues ont souvent pensé que le Spinosaurus pêchait uniquement sur les rives. En réalité, il peut aussi aller sous l'eau où il se propulse grâce à sa queue munie de deux nageoires en forme de petites crêtes, une dessus et une autre dessous. Les deux techniques sont risquées car sur les rives, un Sarcosaurus peut l'attaquer par surprise en bondissant de l'eau. C'est un crocodile géant mesurant 11,5 mètres de long, c'est un de ses plus mortels ennemis. Et sous l'eau, le Spinosaurus peut tomber sur les terribles animaux marins qui peuplent les océans, tels que l'hyopleurodon, mosasaur, plésiosaur, élasmosaur et tant d'autres monstres marins régnant sur les océans. Ou plutôt, sous les océans. Remarque, là, notre Spinosaurus ne court pas trop de risques, car il pêche dans le lit d'un torrent, bien trop petit pour accueillir un hyopleurodon ou tout le bazar, et où un Sarcosaurus se ferait remarquer. Attention, il va commencer. Sa patte avant fouette l'air et plonge dans l'eau pour en ressortir immédiatement avec un poisson dont je ne saurais vous définir l'espèce car elle a déjà été avalée. Puis sa tête plonge dans l'eau pour en attraper une autre proie qu'il mange. Maintenant, il en attrape deux d'une seule main. Les quatre poissons qu'il vient de manger étant d'une corpulence énorme, il n'a plus faim du tout. Mais qu'est-ce que c'est-il ? Il hume l'air et se met en garde, comme si quelque chose pouvait l'attaquer à tout moment. En effet, j'aperçois un carcharoan d'ontosaure qui se cache derrière les arbres, croyant y voir son futur repas. Notre Spinosaurus fort heureusement le repère et rugit dans sa direction. Le carcharoan d'ontosaure sort de sa cachette tout en continuant de fixer des yeux le Spinosaurus. Dans ce combat que je vais vous décrire, j'appellerai le Spinosaurus Spino et le carcharoan d'ontosaure Carcha. Attention, l'issue de ce combat sera décisive sur cette chronique, car si Carcha gagne sur Spino, mon sujet est foutu. Ils se font face à face, chacun prêt à bondir sur l'autre. Soudain, Carcha bondit la gueule grande ouverte vers l'épaule de Spino qui esquive l'attaque, mais se fait tout de même blesser à l'épaule. Spino bondit à son tour et parvient à blesser Carcha sur le dos. Ils se remettent en face à face, de nouveau prêts à attaquer, chacun rugissant pour impressionner l'autre. Coup de théâtre ! Ils attaquent tous les deux en même temps, mordent chacun la queue de l'autre et hurlent de douleur, libérant chacun leur queue. Puis Spino fait un bond de côté pour éviter le coup de dent que Carcha s'apprêtait à lui faire sur la jambe. Il fait immédiatement un quart de tour et bondit, refermant sa puissante mâchoire sur le dos de Carcha, laissant une blessure imposante. Affaibli, Carcha tente de mordre Spino sur le ventre, mais Spino en profite pour attaquer Carcha au-dessus du cou. Carcha vacille et tombe. Puis Spino fait une dernière morsure au-dessous du cou de Carcha qui meurt presque aussitôt. Son cadavre profitera plus tard à un de ces dinosaures charognards qui mangent des restes de cadavres, mais pour l'instant, il profite surtout aux mouches. Spino, épuisé, se désaltère dans le lit du temps. Bah oui, ils se sont battus juste à côté, là. Puis il s'en va. Avec ses grandes pattes, je suis obligé de courir pour le suivre, quand il marche. Mais que se passe-t-il cette fois ? Il s'arrête brusquement, humilère et... Oh non. Fonce dans une direction tout en continuant de flairer le sol. Alors là, je suis obligé de courir à fond les ballons pendant longtemps pour le suivre. Je me demande qu'est-ce qui peut bien le faire courir aussi vite et ah ! Il y a une ligne de rocher. Bon, maintenant, on va enfin savoir ce qui le fait courir comme un mal. Il est passé où ? Spino ! Oh ! Hey ! Oh ! Hey ! Spino ! Bon, on va dire que j'ai fini. Je retourne à présent vers le futur. Bonne année !
Un sujet toujours très précis et intéressant. Merci Guillaume. C'était Arc, une musique de jeu vidéo de dinosaures.
Passons maintenant à Lola avec le stage de 3e.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expérience de mon stage 3e en pâtisserie. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai fait ce stage par passion car j'aime la pâtisserie depuis toute petite et j'avais envie de savoir ce qu'était la vraie vie en tant que pâtissière. J'ai fait ce stage à Quissac, dans une pâtisserie-boulangerie nommée Bernard Jérôme. C'est également le nom du chef et donc de mon maître de stage. Le chef, Jérôme, a un CAP pâtissier, confiseur, glacier et chocolatier. Il n'a pas de CAP boulanger, mais a eu les connaissances d'un vrai boulanger au fil des années. Heureusement, je n'habitais pas loin et surtout en tant que stagiaire, les horaires étaient encore plus simples qu'un vrai pâtissier. Mes horaires étaient de 7h-12h le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi. Et les horaires du chef étaient de 4h midi et 16h-19h30, mais il pouvait aussi finir à 22h ou à minuit. Je vais maintenant vous résumer mes journées en tant que stagiaire. Lundi, je suis passée par la porte de derrière et en entrant, j'ai fait connaissance avec tout le personnel qui était très gentil. Il y avait une stagiaire en pâtisserie au nom de Chani, deux apprentis pâtissiers qui s'appelaient Mathias et Théo, et un boulanger qui s'appelait Tom. Jérôme, le chef pâtissier, et sa femme qui était là en tant que vendeuse. J'ai ensuite participé à la réalisation de la crème pâtissière. J'ai appris comment faire du glaçage et du nappage et j'ai ensuite rempli les religieuses et les éclairs de crème pâtissière. J'ai aussi garni deux parts de pizza et enfin rempli et découpé une tropézienne. Mardi, j'ai appris à faire des chouquettes et surtout à faire la forme. J'ai ensuite fait trois cakes et enfin cinq petites bûches qui demandaient une grande précision. Mercredi, j'ai rempli des Paris-Brest et des éclairs, également une tropézienne, mais je l'ai aussi découpée. Ensuite, j'ai découpé la pâte feuilletée du millefeuille et je l'ai remplie. Et enfin, en voyant que j'avais bien réussi avec les petites bûches, Jérôme m'a confié la tâche de les découper, les mettre dans un moule et de les remplir. J'ai d'ailleurs fait la crème chocolat. Vendredi, j'ai fait des éclairs et des religieuses, cuit des beignets et ensuite j'ai rempli une tropézienne que j'ai découpée et recouverte de sucre glace. Et je n'ai pas oublié de prendre la prendre en photo, car il fallait des activités observées pour mon rapport de stage. J'ai coupé en deux façons verticales le cake du framboisier et l'ai rempli. Je l'ai ensuite recouvert de framboises. Les bonhommes en pain d'épices en cuit, j'ai pu faire les dessins dessus et ensuite les prendre en photo pour ma deuxième activité observée. Samedi, j'ai fait un ensemble de tout ce que j'avais fait dans la semaine, donc beignets, croissants aux amandes, tartes, millefeuille, et après avoir enfin tout fini, je suis partie de Jérôme et Théo à décorer les sols en pain d'épices. C'était mon expérience personnelle, alors ce ne sera pas la même chose pour tout le monde, mais j'ai trouvé cela très intéressant et j'ai beaucoup appris. Malheureusement, je n'étais pas au courant qu'on pouvait faire un stage dans deux entreprises différentes, car il y avait un autre métier que je souhaitais découvrir. Malgré que j'ai énormément aimé ce stage, je ne pense pas le faire plus tard comme métier, mais ça ne veut pas dire qu'il a été inutile, car grâce à lui, j'ai pu me rendre compte que je ne souhaitais pas faire pâtissière, mais peut-être professeur des écoles.
Merci Lola, au moins je saurai à quoi m'attendre l'année prochaine.
Et moi, celle d'après. Passons à Un jour une question, votre chronique actu avec Elliot.
Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je remplace Lucas pour Un jour une question, car il se retrouve à la technique. Je suis Elliot, et en vue des élections présidentielles, une question essentielle que plein de monde se pose doit être expliquée. À quoi ça sert d'élire quelqu'un à la présidence de la République en France? C'est vrai quoi? Pourquoi ne pas laisser le Sénat et l'Assemblée tout décider? Alors, je vais répondre à cette question. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un président de la République? Un président de la République est une personne majeure qui est élue par le peuple pour diriger le pays. C'est le principe de la démocratie. En France, le président de la République est élu pour une période de 5 ans. C'est un quinquennat. Aux États-Unis, il est élu pour 4 ans. Mais rappelons que ça n'a pas toujours été le cas. Avant une réforme de Jacques Chirac, le président était élu pour 7 ans, un septennat. Le président doit respecter ses engagements en tant que président, tels que chef des armées, représentant de la France à l'étranger et dirigeant du pays. C'est la Constitution qui l'oblige à les respecter. Pourquoi on élit un président? On élit un président pour représenter le peuple et diriger le pays. C'est lui qui dirige les activités militaires du pays. Il a le pouvoir exécutif. Il veille aussi au respect des lois et à l'application de celles-ci. Mais me diriez-vous, pourquoi on élit juste une personne en tant que chef du pays? Eh bien, tout d'abord, on n'élit pas une seule personne. Il y a les élections législatives qui nous permettent d'élire chaque année les députés de l'Assemblée nationale. Il y a aussi le Sénat qui voteront les lois. Puis imaginez-vous si la France rentre en guerre et qu'il faut décider d'envoyer l'armée. Ce serait la pagaille car tout le monde ne serait pas d'accord. Donc s'il n'y a qu'une personne qui a tout le pouvoir exécutif, cela permet de faire des décisions plus rapidement. Et puis ne vous inquiétez pas, la Constitution est faite de manière à ce qu'un président en France ne peut être président que pendant deux mandats. Et il ne peut pas s'accaparer les pouvoirs. Le président n'a qu'un seul des trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif appartient au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux. J'espère que cette chronique vous aura éclairé sur certains sujets. À mon avis, avec l'élection présidentielle qui approche, je vous conseille d'aller voter, même si c'est un vote blanc. car c'est devoir du peuple et des citoyens, et ne pas voter reviendrait aux autres de choisir pour nous. Merci de m'avoir écouté.
Merci pour ces importantes précisions. Marseillaise version électro.
Nous passons très vite à Athénaïs qui nous présente le club robotique. Mais avant toute chose, je rappelle aux auditeurs qui nous rejoignent que vous êtes sur Onde de Choc.
Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une interview que j'ai réalisée au sein du collège de Coutaches à Guissac. De nombreux ateliers sont proposés au moment de la pause déjeuner et pour cette émission, j'ai décidé d'aller à la rencontre des élèves du club robotique et de leurs professeurs en compagnie de Monsieur Vaillé. Pour information, c'est tous les jeudis entre 12h30 et 13h30. Et ça se déroule dans la salle informatique, la salle 126 du collège. Seuls les élèves volontaires de 4e et de 3e peuvent s'y inscrire.
Monsieur Vaillé, quel est votre métier ?
Je suis enseignant-chercheur à l'IUT de Montpellier.
En quoi consiste le club robotique ?
Le club robotique a pour but de familiariser les élèves du collège de Guissac avec les métiers autour de la robotique, l'électronique, l'informatique, la programmation, etc.
Qui a eu l'idée de ce club et depuis combien d'années existe-t-il ?
Alors, ce club a été créé à mon initiative, en concertation avec M. Paré, le principal du collège. Et il a été mis en place à la rentrée 2021. Donc c'est la première année que ce club robotique se tient au collège de Guissac.
Merci. Apportez-vous du matériel de chez vous ?
Alors effectivement, j'apporte du matériel d'une part de chez moi, mais surtout j'emprunte du matériel à l'IUT. Voilà, donc c'est du matériel que je mets à la disposition des élèves du collège.
Merci. Pourquoi avez-vous choisi de vous installer dans la salle informatique ?
Alors, j'ai choisi de m'installer dans la salle informatique parce que c'est la salle qui correspond le mieux et qui convient le mieux aux activités que nous menons, où nous avons besoin d'ordinateurs, d'un peu de place pour travailler. Voilà, donc, et puis, c'était la salle que le collège m'a mis à disposition pour faire le club robotique.
Merci. Donc, ben voilà. Lisa, comment as-tu entendu parler de ce club ?
J'en ai entendu parler par une amie dont le père animait du coup ce club. Donc, on s'est dit que ça serait intéressant d'y aller toutes ensemble.
Merci. Pourquoi as-tu choisi de t'inscrire dans ce club ?
J'ai choisi de m'inscrire dans ce club parce qu'une amie m'en a parlé. Et on s'est dit que ça serait sympa de découvrir la robotique ensemble.
Luna, peux-tu nous donner des exemples d'exercices que tu fais ?
On a tout d'abord, déjà ils nous montrent des exemples d'exercices. Et après, on apprend nous-mêmes à le faire. Par exemple, on a donc programmé une petite LED pour qu'elle s'allume, selon donc, des intervalles de temps réguliers. Après, bah là, on va pratiquer donc une activité pour déclencher une LED à la suite, enfin avec un bouton poussoir, lorsqu'on a appuyé dessus. Et puis voilà, hein, donc on a du matériel électrique et un logiciel. Et...
D'accord. Que penses-tu que cela peut t'apporter dans la vie de tous les jours et pour ton avenir?
Ben ça peut servir pour déjà pour la savoir maîtriser avoir déjà maîtrisé un petit peu le domaine de la robotique, ça peut servir dans la vie de tous les jours et puis oui, ça peut voilà nous aider à connaître davantage de choses dans des domaines où forcément on s'y connaissait pas trop au départ, et donc ça peut être très utile voilà dans la vie de tous les jours comme je disais.
Merci Lola. Utilises-tu du matériel électronique?
Oui, comme des câbles, une résistance, une LED, voilà, et un ordinateur du coup.
Leur manipulation peut être elle dangereuse?
Non, pas tellement.
Merci, j'irai peut-être l'année prochaine. C'était Electrified.
À présent, à Paul et Maël sur les records insolites. Bienvenue en Italie.
Buongiorno a tutti. Bienvenue pour une nouvelle émission des records insolites.
Prenez votre toc pour l'un des pays les plus gastronomiques du monde. Nous partons aujourd'hui en Italie. Pour aborder ce premier record, nous allons parler de quelque chose de commun en Italie, la pizza.
Avec ses 1854 mètres, les Napolitains peuvent être heureux d'avoir battu l'ancien record qui était de 1500 mètres détenu par la ville de Milan. En Italie, bien sûr.
Des centaines de pizzaiolos ont participé à ce record. Ils ont dû bien se régaler avec ces 2 tonnes de mozzarella et de tomates. Ça me donne faim.
Ce deuxième record est détenu par Giuseppe Colibasi, qui détient le record de la plus longue session de tatouage du monde. Elle a duré 53 heures, plus de 2 journées de tatouage.
Il ne doit pas ressentir la douleur. J'espère que ce tatouage est bien réalisé.
Pour ce dernier record, on va parler de la personne qui a explosé le plus de pastèques avec son poing en une minute.
Il s'appelle Edgar Scandura, il a explosé 78 pastèques en une minute, une prouesse physique pour cet Italien qui a beaucoup de force dans ses poings.
Il bat le record de pas loin, il réussit à faire 2 pastèques de plus que l'ancien record.
Bien joué, surtout que moi, peut-être avec un marteau, je n'arriverai peut-être pas à casser juste une seule pastèque. Ah, bon sinon ça sera tout pour cette deuxième édition des Records Insolites, j'espère qu'elle vous aura plu.
Et sinon, ciao ragazzi pour une prochaine édition en Espagne.
Toujours incroyable ce record. Notre merveilleuse émission touche malheureusement à sa fin. Nous tenons à remercier Siam, qui nous a aidés tout le long de l'émission, Madame Rouvière, le professeur documentaliste, à la technique nous avions Lonnie, au choix des musiques Lucas, et Paul qui nous a de nouveau fait d'incroyables jingles.
Nous précisons aussi que l'ensemble de l'enregistrement s'est passé dans le CDI du collège. Sur ce, nous vous remercions d'avoir suivi notre émission, et d'ici la prochaine,
portez-vous bien.
Le collège de Gouta, des interviews, des actus,
de la musique,
des sciences,
bien au portage.
Vous écoutez Hors de Show.